Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité, bienvenue si vous nous rejoignez, l'antenne vous appartient dans un instant, comme tous les jours à cette heure-ci, vous le savez, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. D'ailleurs, nous allons consacrer les 20 prochaines minutes à la crise migratoire en Europe après la présentation hier du plan de la Commission européenne pour faire face à l'afflux de réfugiés. Donc s'il vous manque des clés, des repères pour décrypter cette crise, rejoignez-nous, toutes vos questions nous intéressent, 33 9 693 693 60. Vos questions également sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission. Dans 20 minutes, notre débat du jour, il sera aujourd'hui consacré à la déforestation. On en parle peu dans cette émission. On va en parler tous ensemble tout à l'heure. C'est un sujet qui vous concerne très certainement. Avec ce chiffre publié cette semaine lors du Congrès forestier mondial qui se tient à Durban, en 25 ans, la planète a perdu 129 millions d'hectares de forêt. C'est l'équivalent de la superficie de l'Afrique du Sud, d'où le cri d'alarme lancé par les organisateurs de cette conférence internationale, car les forêts contribuent, vous le savez, à atténuer le réchauffement du climat, mais leur dégradation menace la subsistance de plus d'un milliard de personnes dans le monde. Alors qu'en est-il dans votre pays? Quelles initiatives sont prises pour lutter contre la déforestation? Et dites-nous, c'est la question qu'on se pose en ce moment, notamment sur le continent africain, comment peut-on concilier la protection des forêts et le développement économique? C'est une question d'ailleurs qui sera abordé à Paris au mois de décembre lors de la conférence sur le climat. 33 9 693 693 70. Plusieurs témoignages déjà sur les réseaux sociaux. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure. Vos questions d'abord donc sur la crise migratoire en Europe. Hier, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a présenté donc son plan qui est censé permettre aux 28 États membres de faire face à l'afflux des réfugiés. Jean-Claude Juncker veut répartir 160 000 réfugiés au cours des deux prochaines années. Il a proposé des quotas de répartition. Les quotas, vous le savez, c'est le sujet qui fâche entre les différents pays membres. Virginie Guiraudon est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous durant les 20 prochaines minutes. Vous êtes sociologue, spécialiste des questions migratoires, directrice de recherche au CNRS et au Centre d'études européennes de Sciences Po à Paris. La première question, c'est Caillard qui nous la pose. Il nous appelle de Casablanca. Bonjour Caillard.
Bonjour Juan, bonjour tout le monde.
Bienvenue, on vous écoute.
Merci. Juste Paris et Berlin se sont entendus, je pense, jeudi dernier sur un principe de quota contraignant, il faut le dire, pour l'accueil des migrants. Ma première question, c'est qui a défini les quotas et sur quels critères?
Alors, qui a défini ces quotas? C'est la Commission européenne, Virginie Guiraudon?
Alors, la Commission européenne, en mai dernier, après quand même plusieurs années où les chiffres en termes de demande d'asile avaient été importants, et puis comme vous le savez, il y avait eu énormément de drames en Méditerranée, a fait cette proposition. À l'époque, c'était pour simplement prendre 40 000 demandeurs d'asile qui étaient en Grèce et en Italie, les pays qui étaient on va dire, qui recevaient le plus de personnes. Là, comme souvent au niveau européen, tout le monde n'est pas d'accord, et donc ils ont dit, ben, à ce moment-là, ça va être volontaire. Alors vous imaginez, si c'est contraignant, c'est une chose, mais volontaire, ils n'ont pas réussi à trouver, ils ont trouvé 32 000, ils ont pu essayer de replacer 32 000 personnes.
Sur les 40 000.
Là, il faut dire que l'initiative, elle vient quand même d'Angela Merkel, le pays évidemment très important dans l'Union européenne, suivi après par d'autres, devant une situation où l'Allemagne elle-même prend beaucoup plus de réfugiés en termes absolus et relatifs à sa population que tous les autres pays européens. Et donc, c'est pas juste la Commission, mais à ce moment-là aussi les grands pays européens qui ont décidé qu'il fallait faire, faire plus.
Mais ces critères, ces quotas, pardon, ont été fixés sur la base d'un certain nombre de critères. C'est en fonction du nombre d'habitants de chaque pays, de son PIB, donc de sa richesse, du niveau de chômage, du nombre de réfugiés déjà présents sur le pays.
Tout à fait. Donc il y a un certain nombre de critères qui avaient été critiqués au mois de mai, mais qui finalement n'ont pas énormément changé. C'est pour ça, par exemple, des pays comme l'Allemagne elle-même va en recevoir, alors qu'elle en reçoit déjà beaucoup.
Alors l'Allemagne,
ou des pays comme l'Espagne.
On a appris ce matin, c'est le vice-chancelier allemand qui vient de le dire il y a quelques minutes, l'Allemagne a accueilli depuis le début de l'année 450 000 réfugiés. Donc on est bien au-delà du quota demandé par Jean-Claude Juncker, à savoir 31 000 migrants.
Oui, alors, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, juste pour éclaircir.
C'est très bien.
L'Allemagne a effectivement accueilli 450 000 personnes. On considère qu'à la fin de l'année, on peut arriver à 800 000 personnes. Ces personnes sont des demandeurs d'asile. A priori, ils vont poser une demande pour voir si on leur octroie un statut, soit de réfugié, soit simplement on les garde avec ce qu'on appelle une protection temporaire. Les réfugiés, c'est le statut c'est des gens qui fuient, mais tant qu'ils n'ont pas leur statut reconnu en Allemagne, je préfère les appeler des demandeurs d'asile. Le mot migrant, ça concerne tout le monde d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui quitte un migrant international, c'est quelqu'un qui quitte son pays. Donc les chiffres donnés par l'Allemagne, c'est-à-dire 450 000 personnes sont en Allemagne et vont entrer dans ce système, dans la procédure d'asile. Et ça ne veut pas dire que tous auront leur statut reconnu, évidemment.
Alors justement, Caillard, vous avez une autre question.
Oui, c'était d'abord de savoir si tous les migrants seront accueillis. Ça, c'est la question, je pense qu'elle a répondu en partie. Aussi que le président français, François Hollande, a évoqué une initiative pour organiser un peu l'accueil des réfugiés, surtout en France. Ma question, c'est de savoir concrètement que va-t-il mettre en place et qui doit se charger de l'accueil des migrants.
Oui, la France qui est censée accueillir 24 000 réfugiés, François Hollande a lui-même annoncé qu'il était prêt, que la France était prête à accueillir ce nombre élevé de réfugiés au cours des deux prochaines années. Les premiers réfugiés sont d'ailleurs arrivés hier en France, plusieurs dizaines de Syriens et d'Irakiens en provenance d'Irak. Sait-on quel moyen la France va-t-elle mettre à la disposition de toutes ces personnes ?
Alors, je répondrai juste très brièvement sur la question de est-ce que tous les migrants seront accueillis. Je pense qu'il y aura quand même des migrants prioritaires issus des pays qu'on connaît, la Syrie, l'Érythrée. Et ça a été clair aussi que, par exemple, les Balkans sont considérés comme des pays sûrs. Donc, malheureusement, je pense que c'est pas une année où les Kosovars auront un taux de reconnaissance très élevé en ce qui concerne la demande d'asile. Ça, je pense qu'il faut dire les choses clairement.
Il y aura, pour dire les choses trivialement, un tri.
Des chouchous, des gens qu'on considère comme étant plus dans le besoin que d'autres, ce qui n'est normalement pas conforme évidemment à nos procédures d'asile et à la Convention de Genève. Pour en venir sur ce que va faire la France. Alors, la France elle va donc recevoir à peu près 20 000 réfugiés. Pour replacer ce chiffre, il y a 60 000 demandes d'asile par an. L'année dernière, en 2014, c'était le cas. 14 500 personnes ont bénéficié d'un statut. Les autres, ils sont dans la nature. Donc, le chiffre de 20 000, il est vraiment très faible. Moi, j'ai envie de dire, heureusement que le ridicule ne tue pas, parce que sinon, je pense que le gouvernement français et le président et le premier ministre et le ministre de l'Intérieur seraient déjà décédés. C'est-à-dire que on a parlé des chiffres en Allemagne, vous rendez bien compte que les chiffres en France sont très, très faibles. Moi, je sais que beaucoup de mairies sont mobilisées, beaucoup d'associations, beaucoup de bénévoles. La question, c'est est-ce que l'État va mettre la main à la poche.
Et en
je pense
cas,
que c'est
Manuel Valls,
pas, il ne passera rien.
Manuel Valls, le Premier ministre, a annoncé que des mesures d'accompagnement financier en faveur des communes qui seront volontaires pour accueillir des réfugiés seront rapidement mises en place. Donc il y aura déjà des aides financières de la part de l'État.
Écoutez, la maire, Madame Hidalgo, la maire de Paris réunit un certain nombre de personnes cet après-midi et c'est exactement sur cette question qu'ils sont en discussion avec le ministère de l'Intérieur.
Alors, on a d'autres questions, on va essayer d'accélérer un peu le rythme. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous appellent pour nous poser des questions. Souleymane, bonjour.
Bonjour à RFI, bonjour à tout le monde.
Vous nous appelez de Conakry, on vous écoute.
Au fait, j'ai appris que la Slovaquie refuse d'accueillir des migrants de confession musulmane. Alors, j'aimerais savoir quelles sont les raisons de cette annonce. Le pays a-t-il le droit d'établir une telle politique et risque-t-il des sanctions de la part de l'Europe?
C'est vrai que la Slovaquie fait partie des pays d'Europe centrale qui rejettent l'idée de quotas obligatoires pour l'accueil des réfugiés. Restez avec nous, Virginie Guiraudon. Vous nous accompagnez tout au long de ces 20 minutes que nous consacrons à la crise migratoire. Domiti Piron du Service international vient de nous rejoindre. Bonjour Domiti.
Bonjour.
Le Premier ministre a été très clair, le Premier ministre slovaque. Il a dit en gros oui à quelques migrants, mais à condition qu'ils ne soient pas musulmans. Comment justifie-t-il une telle prise de position ?
Eh bien, ces responsables politiques slovaques se justifient. Ils expliquent qu'il y a très peu de musulmans en Slovaquie, qu'il n'y a pas de mosquée, donc ces musulmans ne pourraient pas s'intégrer. En effet, il n'y a que 0,2% de la population slovaque qui est musulmane et 70% des Slovaques sont des catholiques, d'où la préférence dans le pays pour accueillir des réfugiés chrétiens. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Ivan Netik, a expliqué qu'il ne s'agissait pas du tout de discrimination, mais que les Slovaques n'avaient rien contre l'islam, mais qu'il fallait y voir un effort de la part du pays pour réussir l'intégration des réfugiés.
En tout cas, beaucoup d'observateurs sont convaincus que cette décision de la Slovaquie, c'est finalement un prétexte.
Oui, effectivement, le pays fait partie du groupe de Visegrad, qui comprend donc la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne. Ils sont très opposés au système de répartition par quota des migrants en Europe. En fait, ils sont surtout très hostiles à l'accueil des réfugiés. On parle en Slovaquie d'une xénophobie ambiante. Il y a un refus de la différence qui caractérise la société slovaque. On peut préciser également que certains sondages montrent que plus de 70% des Slovaques seraient ou sont opposés à l'accueil de migrants dans leur pays. Il y a eu de nombreuses manifestations au relent xénophobe contre l'accueil des migrants qui ont été organisées. Donc derrière ce choix, on peut surtout voir une façon de refuser l'accueil des réfugiés. Et le Premier ministre Robert Fico a souvent répété que le pays n'avait aucune obligation morale d'accueillir les réfugiés. Et il jouait également sur les peurs en déclarant qu'accueillir par exemple 400 000 migrants musulmans qui construiraient des mosquées pour échanger la nature, la culture et les valeurs de la Slovaquie.
Donc oui à l'accueil des réfugiés, mais à condition qu'ils soient chrétiens. C'est un message qu'on a entendu également en Pologne, qu'on a entendu également dans la bouche de certains maires, les Républicains en France, qui ont annoncé vouloir accueillir des familles chrétiennes et non musulmanes pour éviter, je cite, les risques terroristes. Notre auditeur Souleymane nous demandait, est-ce que la Slovaquie a le droit de tenir de tels propos, d'appliquer une telle politique. Est-ce qu'elle risque des sanctions de la part de Bruxelles ?
Alors, pour le moment, il s'agit que d'annonces. Donc, ça semble très difficile à mettre en place, même si la Slovaquie dit avoir sélectionné en Hongrie et en Grèce les familles que le pays se dit prêt à accueillir. Ce choix est en réalité un tri des réfugiés selon leur religion et c'est contraire à toutes les conventions internationales. La Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951, par exemple, qui définit donc l'accueil des réfugiés sans discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine. Cette annonce est également contraire au principe même de l'Union européenne et de la Convention européenne des droits de l'homme, que la Slovaquie a ratifiée également. Mais la CEDH ne peut intervenir ou condamner un État que sur la base de textes officiels. Donc pour l'instant, il ne s'agit que d'annonces qui ne sont pas suivies de faits.
Oui. Virginie Guiraudon, un mot peut-être justement sur le blocage des pays d'Europe centrale.
Alors, je comparerais pas tout à fait la Hongrie et la Slovaquie. D'ailleurs, je pense que vraiment la Hongrie a le tournant autoritaire et de Orban est bien documenté. Mais sur le cas de la Slovaquie, ce qui était intéressant, c'est que, comme ça a été rappelé, c'est absolument illégal du point de vue du droit de l'Union européenne de discriminer sur la religion. C'est une opération en fait du gouvernement destinée plutôt à sa population, où effectivement les sondages montrent que 80% des gens sont contre. Il s'agissait quand même de dire qu'au lieu de prendre 1000 personnes, on prenait que 100 personnes, donc on parle quand même de chiffres absolument minuscules, avec cette phrase incroyable qui est « on n'a pas de mosquée chez nous », mais en fait ça s'est retourné contre eux parce que ça a été très diffusé sur les réseaux sociaux et parmi la société civile slovaque et les autres partis, ils ont pensé que c'était vraiment la plus mauvaise publicité qu'on pouvait faire au pays. Ouais. Donc il faut pas oublier qu'il y a peut-être d'autres types de réactions qui ne sont pas celles qu'on entend. De toute façon, effectivement, au final, chaque pays prendra une toute petite part, y compris la Slovaquie. Donc on peut parler de communication politique, mais de toute façon, leur attitude ne correspond pas au droit de l'Union européenne et au droit international.
Idriss nous appelle de Ouagadougou. Bonjour Idriss.
Bonjour.
Nous vous écoutons, soyez le bienvenu.
Merci. Bonjour à tous les auditeurs. J'ai deux questions à vous poser, Juan. Je voulais savoir, la première question, pourquoi la Ligue arabe ne réagit-elle pas face à l'afflux des migrants syriens en Méditerranée?
Ah, bonne question. Le silence de la Ligue arabe, on a demandé à Sami Bourlifa du service international de nous rejoindre. Bonjour Sami.
Bonjour Juan, bonjour Idriss, bonjour à tous.
Comment expliquer ce silence?
Alors je vais répondre à la question d'Idriss par une autre question. Le silence de la Ligue arabe, il faut d'abord savoir, poser la question, quels sont les pays qui ont le plus de poids au sein de la Ligue arabe? Ces pays-là, eh bien, c'est l'Arabie Saoudite et ce sont les monarchies du Golfe. Et donc, je crois que Idriss a une deuxième question justement par rapport à l'Arabie Saoudite. Donc, l'Arabie Saoudite aujourd'hui ne réagit pas et elle ne veut pas d'un afflux massif des Syriens et des Irakiens sur son territoire. C'est honteux, mais c'est la réalité. Voilà.
Alors que l'Arabie Saoudite est d'une certaine façon quand même concernée par ce conflit, elle-même soutient d'une certaine façon les opposants de Bachar al-Assad.
Lorsqu'on pense que ce sont ces monarchies du Golfe, avec à leur tête l'Arabie Saoudite, qui ont œuvré depuis le début de la crise syrienne pour, entre guillemets, libérer le peuple syrien, je cite, du dictateur Bachar al-Assad, et qui aujourd'hui abandonne les Syriens à leur triste sort, disons que tout est dit d'une certaine manière. En plus, vous savez, les pays du Golfe, donc les monarchies du Golfe, le disent d'une manière complètement décomplexée. Il y a quelques jours, un responsable du CCG, donc le Conseil de coopération des pays du Golfe, le déclarait devant la presse internationale, devant les médias, d'une manière complètement décomplexée. Il disait nous ne pouvons pas accueillir ces migrants ici, sur notre territoire, dans les pays du Golfe. Pourquoi ? Parce que le niveau de vie dans les pays du Golfe est trop élevé pour les réfugiés. Nos pays sont faits pour les travailleurs, pour les gens qui veulent venir travailler, mais pas pour les migrants et les personnes qui sont plus ou moins dans une position délicate.
Donc les monarchies du Golfe préfèrent que les réfugiés syriens restent en Turquie, où ils sont déjà, je crois, 2 millions, au Liban, où ils sont plus d'un million, en Jordanie, où ils sont plus de 630 000. C'est ça la position des pays du Golfe?
C'est ce qu'ils disent. Ils disent rester dans ces pays, la Turquie, la Jordanie, le Liban, ce sont des pays où le niveau de vie est plus ou moins raisonnable. Nous vous enverrons de l'argent, et c'est vraiment ce qu'ils font. Ils donnent de l'argent, donc ils contribuent d'une manière ou d'une autre à aider les réfugiés dans ces pays, mais ils préfèrent que les réfugiés, les déplacés restent dans ces pays-là et ne viennent pas chez eux.
Ils contribuent à coups de milliards de dollars à la construction de camps de réfugiés dans les pays qu'on vient de citer, donc la Turquie, la Jordanie et le Liban.
Tout à fait, mais en revanche, ils n'hésitent pas en fait à ouvrir grand leurs portes aux familles syriennes, par exemple, qui en ont les moyens, peu importe en fait leur position politique, qu'elle soit pour Bachar al-Assad ou contre Bachar al-Assad, du moment où ces familles-là arrivent dans leur pays avec leurs capitaux, elles sont les bienvenues.
Allez, une dernière question certainement pour Virginie Guiraudon qui est toujours en ligne. Jacques, bonjour.
Bonjour. Éditeur du 13 et RFI.
Vous êtes à Lomé au Togo.
Savoir si l'accueil des migrants. Oui, bien sûr, c'est ça. Ma question est de savoir si l'accueil des migrants par les pays européens est permanent ou temporaire.
Ah, bonne question. Virginie Guiraudon, cet accueil sera permanent?
Alors, c'est effectivement une excellente question. Quand on est on va accueillir ces personnes, pensons à ceux qui sont déjà là. Souvent, ils n'ont pas forcément le statut de réfugié, mais ce que j'ai appelé un statut de protection temporaire. Temporaire au sens de, on considère que c'est trop dangereux dans leur pays d'origine, mais que le jour où la situation est considéré comme s'améliorant, on peut les renvoyer chez eux. Un exemple qui est quand même extrêmement frappant, c'est le cas des Afghans, qui continuent d'ailleurs de venir demander l'asile en Europe, mais des dizaines de milliers d'Afghans ont été renvoyés, expulsés de pays d'Europe pour retourner en Afghanistan, quand on a, après évidemment le 11 septembre 2001, quand les talibans ont été ont dû quitter Kaboul, si je puis dire. Donc autour de Kaboul, il y a des camps de réfugiés qui sont en fait des expulsés mais qui ne peuvent pas rentrer dans leur province ou chez eux. Oui. Mais ce sont des camps gérés par le HCR, où il y a ces fameux Afghans qui ont été expulsés. Donc c'est un exemple pour vous dire que des fois, on renvoie les gens chez eux, y compris dans des situations où en fait, il y a juste un tout petit bout du pays qui est sécurisé.
Ouais. Merci Virginie Guiraudon de nous avoir accompagnés durant ces 20 minutes pour tenter de répondre à quelques-unes des nombreuses questions que nous avons reçues.